France Musique.
Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, la plus belle voix du monde est à notre programme avec Roberto Alagna qui rend hommage à Caruso dans son tout nouveau disque. À mes côtés, au micro de France Musique, il nous expliquera sa passion pour le grand Caruso qui l'accompagne depuis l'enfance et dont il recrée les tubes avec une dévotion flamboyante. On retrouve Roberto Alagna dans quelques minutes, juste le temps d'aller gazouiller un peu, vous savez, sous les palétuviers.
L'amour se fait défendu, vous êtes donc inconnu. Oh, cela, ce petit joli petit bourgeon d'avril.
Non, je ne l'ai jamais vu ni connu. Mais mon cœur ingénu veut rattraper boiteux tout le temps perdu.
Ah, rien ne vaut pour s'aimer les grands palétuviers, chère petite chose.
Ah, si les palétuviers te font en frétiller, je veux bien l'essayer.
Enfin, sous les pas.
Je viens de ce pas, mais j'y vais pas à pas.
Ah, suis-moi, veux-tu.
Je te suis pas têtu sous les grands palétuviers.
Garçon sourcillé, allons gazouiller sous les palétuviers.
Ah oui, sous les palétuviers, sous les palétuviers.
Ah, je te veux sous les pas, je te veux sous les palétuviers roses.
Aimons-nous sous les pas, tu prends-moi sous les laitues, aimons-nous sous les pieds.
Ah, ton cœur me semble encore hésiter, cher trésor. Mais je veux tout oser pour un petit tout petit baiser.
Un vertige m'éblouit, un baiser c'est exquis. Mais même si tout petit, je crains d'être pour lui l'objet du mépris.
Non, le mépris, je t'en prie, ce n'est pas dans mépris, car je suis très mignonne.
Ah, mon cœur est aux abois, tu peux prendre mon roi, mon corps au fond des bois.
Oh, viens sous les pas.
Oh, je viens de ce pas, mais j'y vais pas à pas.
Oh, suis-moi, veux-tu.
Je te suis pas têtu sous les grands palétuviers.
Viens sans sourciller, allons gazouiller sous les palétuviers.
Ah oui, sous les palétuviers, sous les palétuviers.
Ah, je te veux sous les pas, je te veux sous les palétuviers roses.
Et moi nous sous les pas, tu prends-moi sous les laitues, et moi nous sous les pieds.
Près des arbres enchanteurs, viens goûter ces senteurs. Ce cocktail où se mêle le gingembre avec la cannelle.
Oui, c'est l'effet du tropique qui me pique. Je sens les muscadiers, je sens les poivriers et les bananiers.
Le parfum des néfliers et des doux pistachiers ne vaut pas les tuviers tendres.
Tous ces arbres tropicaux vous incitent au béco. Allons-y, mon coco.
Ah, viens sous les pas.
Oh, je viens de ce pas, mais j'y vais pas à ce pas.
Ah, suis-moi, veux-tu.
Je te suis pas têtu sous les grands palétuviers.
Viens sans sourciller, allons gazouiller sous les palétuviers.
Ah oui, sous les pas.
Ah, je te veux sous les pas, je te veux sous les palétuviers roses.
Aimons-nous sous les pas, tu prends-moi sous les laitues, aimons-nous sous les pieds.
Si je comprends bien, tu veux mon chien sous les grands palais. Tu
Elle était loufoque autant que sensuelle et talentueuse. Vous l'avez peut-être reconnue dans ce célèbre duo d'opérette Marie Laforêt, ici en duo avec Alain Veil en 1974, avec d'excellents arrangements d'Alain Groaguer. Ah, j'aurais beaucoup aimé la recevoir à cette émission, Marie Laforêt. Ça ne s'est pas fait, mais je tenais au moins à la saluer puisque vous savez qu'elle nous a quittés le 2 novembre dernier.
Thank you.
Tunisia Waltz, encore une composition de l'excellentissime André Pop ici avec son orchestre en 1956. Il vient de sortir, je vous l'avais dit, un très beau coffret de musique d'André Pop et ce sera l'occasion pour moi dans 15 jours de recevoir son fils à ce micro avec Serge Laïc pour évoquer cette carrière hors du commun.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Mais il est temps de retrouver mon invité. J'avais eu déjà le plaisir de le recevoir voici quelques années, notamment pour parler de son disque Luis Mariano. Aujourd'hui, il sort Caruso 1873, en partenariat d'ailleurs avec France Musique. L'occasion était trop belle de le retrouver et surtout de l'entendre avec toujours le même bonheur. Je reçois ce matin Roberto Alagna.
Mare luccica l'astro d'argento, placide l'onda, prospero il vento. Sul mare luccica l'astro d'argento, placide l'onda, prospero il vento.
Bonjour Roberto Alagna.
Ça met de bonne humeur, je sais pas pourquoi.
Moi, ça me met en transe.
À ce point-là.
Je vous le dis carrément. J'écoute cette chanson parmi d'autres de votre disque depuis quelques jours et je me dis, mais c'est quoi le miracle de la voix? Cette chose qui me fait vibrer comme ça, hein, intérieurement. Le miracle du chant, vous avez dû y réfléchir, Roberto
Alagna. Oui, parce que figurez-vous que moi, ça m'arrive souvent. Sur scène, j'entends un collègue, une collègue et on tombe amoureux parce que de la voix, il y a quelque chose de
physique.
De physique, même presque de sensuel, presque sexuel dans la voix. Il y a quelque chose qui vous fait vibrer, hein, qui nous donne la chair de poule.
Au-delà même de la musique, des paroles, tout ça,
c'est
la voix.
La voix. Bon, après, il faut être amoureux et sensible aux voix.
Mais est-ce que le plaisir qu'on ressent comme auditeur a quelque chose à voir avec celui que ressent le chanteur quand il chante?
Je pense que c'est différent, puisque soi-même, on a du mal on se fait plaisir, mais on a toujours quand même une oreille critique.
Ouais.
On est toujours en train de se dire, tiens, ça, j'aurais pu faire un petit peu mieux, j'aurais pu soigner, à ce moment-là, je pouvais pas faire mieux, mais bon, voilà, c'est ça. Donc, il y a quand même l'œil toujours critique.
Ouais.
Voilà. Mais c'est vrai que quand on réécoute après quelques années, il y a justement cette jubilation.
Alors en tout cas, voilà, merci d'être là, parce que ce disque, je l'adore, c'est Caruso 1873, c'est-à-dire le répertoire de Caruso, mais c'est plus que le répertoire de Caruso. Vous me l'expliquez dans cette chanson, par exemple, vous avez essayé de vraiment recréer, avec votre voix, mais le style de Caruso.
Exactement. J'ai essayé d'être fidèle à son style comme on peut l'être avec un compositeur. Et là, ce qui est intéressant, qui est aussi en même temps un danger, hein, puisque c'est un défi, c'est que on peut les vérifier avec l'original.
Voilà,
et
d'ailleurs, il a fait beaucoup de disques.
Je le conseille parce que vous écoutez par exemple ça, on vient de mettre Santa Lucia, et vous écoutez les deux versions. Et vous allez voir que le travail que je fais, c'est quand même assez incroyable. J'essaie de faire les mêmes portamenti, la même façon d'arriver aux aigus, la même façon de phraser. Et
chaque
presque
détail.
Le tempo aussi, c'est-à-dire que le minutage est quasiment là.
Ouais.
Et donc c'est très difficile parce qu'on ne peut pas enregistrer en ayant dans l'oreille le son de Caruso. Donc il faut emmagasiner tout ça, toutes les informations pour pouvoir ensuite les restituer. C'est un peu la même démarche que lorsque, vous savez, les grands chefs d'orchestre du baroque veulent recréer les orchestres d'époque pour nous faire comprendre comment ça pouvait sonner à l'époque.
Ouais.
Sauf que là, on peut aller vérifier. C'est génial.
On peut le vérifier et c'est vraiment envoûtant parce que bon, on sait que Caruso était un immense artiste. On va parler de lui, mais il y a aussi, je trouve, dans ce disque, une diversité de couleurs extraordinaire.
C'est le propre de Caruso. D'ailleurs, à l'époque, on disait de lui qu'il avait plusieurs voix.
On croirait que vous avez plusieurs voix, Roberto Alagna,
parce que j'essaie de me calquer. Ouais. Et le but que je recherchais, c'était de faire découvrir et aussi de faire redécouvrir Caruso à travers un enregistrement moderne. Et là, on se rend compte de la grandeur de ce ténor qui a été, pour moi, le plus grand ténor de tous les temps.
De tous les temps, vous
de
le
tous
dites
les temps.
C'est le modèle absolu.
C'est le modèle absolu. C'est-à-dire qu'il invente tout parce qu'il a la nature lui donne tout.
Ouais.
Il a la beauté de timbre, l'interprétation, le cachet dans la voix, la musicalité, il est créateur dans ce qu'il fait. Il y a toujours une noblesse dans le son, toujours une facilité dans le son, une spontanéité. Et puis aussi, la personnalité. Quoi.
Voilà.
Il a la personnalité vocale. C'est-à-dire, on met 2 secondes et puis, on est transporté.
Et puis, c'est ce que vous aimez, ce que vous êtes aussi, ce sont ces grands ténors qui ont été bien au-delà du monde
c'est
de la musique classique.
C'est le ténor populaire par excellence.
Le
ténor moderne.
Mais, alors, vous l'avez dit, vous avez évoqué les baroqueux, par exemple, pour parler de votre travail. Alors, on est aussi surpris et fasciné par la diversité du répertoire qui va justement aussi vers la musique ancienne. Alors, je propose, pour avoir une lumière complètement différente de ce disque, qu'on écoute tout de suite un autre extrait. Là, c'est un air de Pergolèse.
Oui, qui est de Ciampi, mais bon, on a fait des recherches, mais bon, c'est pas important. En tout cas, on sait que c'est un air baroque, quoi.
Thank you. Voilà, cet air donc attribué à Pergolèse dans votre nouveau disque, Roberto Alagna. Mais on trouve aussi Handel, d'ailleurs, ce qui montre que le répertoire de Caruso allait vraiment aussi
vers... Et là, c'est très particulier, cet air-là. Merci de l'avoir choisi, d'ailleurs, parce que donc on remplace les cordes par des cuivres. Voilà. Parce que pour l'enregistrement, c'est beaucoup plus sonore. Et du coup, ça donne une sorte de marche funèbre qui correspond complètement aux paroles. Et on a l'impression de se retrouver dans Le Parrain avec de la musique de Nino Rota, comme dans le film de Coppola. Et c'est un projet que j'ai eu depuis longtemps, et d'ailleurs cet enregistrement a été fait par mon frère, et Yvan Cassar a eu la gentillesse de l'utiliser. Et voilà, donc c'est quelque chose que je porte en moi depuis longtemps.
Parce que cette reconstitution du style de Caruso que vous avez voulu, elle va au-delà de la façon de chanter, elle va aussi vers la façon d'enregistrer. Et comme à l'époque, effectivement, on ne pouvait pas tellement utiliser de cordes dans les enregistrements, exactement, c'est pour ça que vous avez mis en avant ces ensembles de cuivre.
Exactement. Voilà. On a voulu faire une sorte de voyage à travers le temps avec l'évolution de la technique vocale et du goût du public,
bien sûr,
qui évolue, bien sûr, qui devient le style. Et puis aussi la technologie d'enregistrement.
Voilà, c'est ça.
Voilà, donc on démarre avec un air qui est moderne d'aujourd'hui,
oui,
et puis on finit avec, on remonte le temps jusqu'à aller à un son.
Un faux 78 tours.
Voilà, voilà.
On l'écoutera tout à l'heure. Mais en tout cas, Roberto Alagna, je voulais aussi, alors on ne peut pas ne pas en parler, revenir sur certains aspects de votre histoire personnelle, parce qu'il faut rappeler, même si vous l'avez déjà raconté, que vos arrière-grands-parents, mm-hmm, qui s'étaient connus à New York,
à Little Italy,
Jimmy et Antonietta, avait rencontré Caruso, qui est donc un personnage de votre histoire familiale. Vous
exactement
pouvez nous rappeler cette
c'est
anecdote.
C'est peut-être pour ça que j'ai cette affection particulière envers Caruso, parce qu'il y a un lien qui nous unit.
Ouais.
Voilà. Donc mon arrière-grand-père, qu'on appelait Mr. Jimmy, était ténor aussi.
Voilà.
Oui, ténor amateur, il chantait dans les réceptions, enfin tout comme ça se faisait à l'époque.
Oui.
Et donc il avait un négoce, il avait un magasin de cuir où il faisait des petits porte-monnaies, des mallettes. Il importait tout le cuir d'Argentine. Et c'est là qu'il a rencontré mon arrière-grand-mère. Et ils se sont mariés.
À Little Italy.
À Little Italy. Donc,
voilà.
J'ai raconté ça dans mon livre Je ne suis pas le fruit du hasard. Donc, vous voyez, à un moment. Et le jour où Caruso est venu dans son magasin, il voulait acheter quelques cadeaux pour offrir aux choristes, aux gens, au personnel du Metropolitan.
Oui.
Mon arrière-grand-père l'a reconnu à Commendatore. Et, vous savez, je suis ténor aussi.
C'était un dieu pour les Italiens de New York, j'imagine.
On l'appelait Commendatore.
Commendatore.
C'est fabuleux. Et il lui dit donc, je suis ténor. Et Caruso, il lui dit, écoute, fais-moi écouter ta voix. Et donc il ferme le magasin et puis il lui chante l'air d'Ernesto dans Don Pasquale et ils deviennent amis. Et ensuite Caruso lui organise même une audition au Metropolitan, mais je crois qu'il a dû se dégonfler.
Mais vos arrière-grands-parents ont continué à suivre tous les spectacles de Caruso.
Ils l'ont même entendu au Madison Square Garden, ils m'ont raconté toutes ces histoires. Et mon arrière-grand-mère ensuite qui est revenue en Sicile.
Parce qu'il est mort jeune,
lui il est mort jeune. Donc elle est revenue ensuite en Sicile et ensuite elle a vécu avec nous.
Oui.
Et moi je l'ai connue jusqu'à l'âge de 20 ans. Donc toute ma vie, j'ai entendu toutes ces histoires de Mr. Jimmy. Elle me racontait tout ça. Et quand, à 10 ans, je vois le film Le Grand Caruso, je vois sur l'écran des scènes que mon arrière-grand-mère m'a racontées.
Ouais.
Alors voilà, alors du coup, moi, je projette cette affection. Et Mario Lanza, qui incarne Caruso, devient pour moi Mr. Jimmy, mon arrière-grand-père.
Voilà,
tout se mélange.
Et c'est ce film, en grande partie, Le Grand Caruso, chanté donc par Mario Lanza, qui vous a vraiment décidé à devenir chanteur. Vous n'aviez pas vraiment,
ça a déclenché la vocation.
Ouais.
Voilà, ça a déclenché la vocation. Et en même temps, j'ai eu la chance, c'est toujours au même âge, de découvrir Mariano. Et pareil, voilà. Mariano, pour moi, c'était, moi qui adorais Zorro, c'était Don Diego de la Vega qui chantait. Voilà, donc j'avais tous les héros que j'aimais. Et ils étaient tous là.
Il faut rappeler d'ailleurs, hein, Roberto Alagna, que vos débuts de chanteur, ça a été d'abord avec les copains, et puis mm-hmm. vous chantiez très bien, vous avez une belle voix, mais vous avez failli aller vers la variété avant de devenir chanteur d'opéra.
J'ai commencé même par la chanson traditionnelle, j'ai fait le cabaret, d'abord les pizzerias.
Oui, et ça m'a surpris d'ailleurs, parce qu'on dirait que finalement, il y avait encore des cabarets où on pouvait tourner le soir, quand vous aviez
17 ans, j'étais professionnel, au cabaret, où je faisais plusieurs cabarets dans la nuit.
Il y en a plus beaucoup aujourd'hui. Hein.
Je crois qu'il n'y en a plus beaucoup. Non, oui. Non. Et on appelait ça un passage. On faisait un passage à l'Oreille du Bois, un passage au Don Camillo, un passage au Don Quichotte, un passage chez Vincent. Voilà, c'était des passages. Et je me souviens que j'ai fait ça pendant quelques années.
Et vous avez même fait un premier 45 tours.
Exactement. Même, bravo, qui était chez Barclay.
Chez Barclay. Chez Eddie Barclay. Et Barclay qui vous a dit cette phrase historique quand vous avez finalement décidé de faire la musique classique. Dommage, tu aurais pu devenir un grand chanteur.
Et c'est vrai. Oui, parce que je lui ai réclamé mon contrat, je voulais plus faire de variété. Je dis, je veux faire de l'opéra. Et il m'a dit, mais t'es fou. Il m'a dit, allez, tiens, je te rends ton contrat, mais dommage, tu pouvais devenir un grand chanteur.
Vous pensez que vous avez pu être un grand chanteur de variété?
Écoutez, à l'époque, vous savez, tout est une question de, il faut y croire. Oui. Voilà. Si, quand on y croit et qu'on est vraiment impliqué dedans, au moment où je n'y croyais plus, j'aurais pas pu devenir un chanteur de variété parce que mon cœur était parti. Et vous savez comment je l'ai vu? J'avais sorti ce 45 tours qui avait bien marché, hein, tout de suite, en première semaine, il s'était classé dans les
oui,
premiers
en plus,
rangs.
Un succès.
Un succès. Ça rappelait un peu, vous savez, les Mac Brand, tout ça, c'était ce style-là. Et je me souviens, donc, j'avais commencé à faire la promotion, comme aujourd'hui. Et ce qui était curieux, c'était que j'étais complètement décalé par rapport à ce que je faisais, puisque on m'interviewait, et moi, je parlais de Caruso, je parlais de Gilles, je parlais de ces gens-là. Et on me regardait avec des grands yeux, ils ne comprenaient pas.
J'ai lu que vous aviez racheté tous les exemplaires, parce que vous
ne
vouliez pas que ça
circule.
Oui,
c'est pas moi qui les ai rachetés, c'est un ami à moi, donc, parce que je voulais absolument m'en aller. Et Barclay a dit, mais tu te rends compte, on a pressé tant de disques, etc. Et cet ami napolitain qui était de Salerne, Angelo, que j'embrasse énormément, il est décédé depuis. Mais il est en photo d'ailleurs dans mon livre. Et c'est grâce à lui que j'ai pu obtenir aussi l'annulation de mon contrat. Il m'a dit, t'inquiète pas Roberto, je pense à chanter de l'opéra, tu veux faire de l'opéra, et tu dis tranquillement, nous, on va s'occuper de Bustock. Et c'est lui qui a tout racheté.
Donc on ne pourra jamais l'entendre.
Si, parce que c'était sorti, et d'ailleurs il y a des gens qui l'ont, hein.
Ah, bon, d'accord.
C'est collector maintenant.
Hein. Bon, Roberto Alagna, alors vous avez, on l'a compris, grandi avec Caruso, je ne sais pas si d'ailleurs dans votre famille on écoutait aussi les originaux, enfin les reproductions des 78 tours.
D'ailleurs je les ai encore à la maison, moi j'ai encore une collection. En fait j'ai Caruso sous toutes ses formes, j'ai en rouleau, j'ai en 78 tours, j'ai en CD bien sûr, j'ai en 33 tours, et voilà, donc j'ai tout Caruso. Ouais.
Alors je propose qu'on écoute quand même sa voix.
Ah oui, s'il vous plaît.
Dans un air d'ailleurs que vous reprenez dans le disque, hein,
oui.
Alors c'est un peu pour moi, ça m'a amusé parce que c'est l'air des pêcheurs de perles,
mais
en italien.
Voilà, je vais vous expliquer pourquoi.
Oh!
la romance de Nadir dans Les Pêcheurs de Perles, version italienne.
Ah oui,
donc,
Roberto Alagna. Alors, j'ai choisi la version italienne parce qu'il a enregistré aussi la version française.
Oui, il a fait les
voilà,
deux.
Hein, il a fait les deux. Oui. Et j'ai choisi celle-ci parce qu'il n'est pas dans le ton original. Uh-huh. Il baisse d'un demi-ton. Alors que la version française, il baisse d'un ton. Encore plus bas. Voilà. Parce que, à cette époque-là, on essaie de garder toujours une aisance vocale.
Oui.
Parce que vous voyez que lui ne truque pas du tout. Il fait pas un seul son détimbré. Il y a juste ce petit falsetto qui l'emmène d'une façon avec un portamento qui est assez extraordinaire. Mais tout jusqu'à l'aigu, c'est toujours sur le timbre, les attaques hyper précises. C'est formidable. Et il rajoute des fioritures. Il fait des petits groupettes, des choses comme ça, qui rendent l'air encore plus beau. Et en plus, cette larme dans la voix,
oui.
C'est pas pour rien que Woody Allen l'a choisi dans son film Match Point. Ah. Et, cet air qui fait partie de la bande originale du film.
Alors c'est vrai qu'on associe souvent Caruso à sa génération, c'est-à-dire au vérisme, c'est-à-dire oui. À Léon Cavallo, à Payas, etc. Et en fait, vous expliquez que c'est plutôt un bel cantiste héritier d'une tradition antérieure.
Exactement. Hein. C'est comme je le dis toujours, vous savez, quand on dit par exemple, ah, celui-ci c'est une voix wagnérienne, celui-ci oui. C'est une voix verdienne.
Ah oui, ça vous énerve ça.
C'est pas que ça m'énerve, c'est que je me dis que à l'époque de Verdi, il n'y a pas de chanteur verdien.
Oui, bien sûr.
Et à l'époque de Wagner, il n'y a pas de chanteur wagnérien.
C'est vrai.
Donc il utilise les gens qui sont des chanteurs de bel canto. Et c'est la même chose avec lui, qui il est contemporain des véristes, c'est-à-dire Léon Cavallo, Chile, Jordan, mais jusqu'à Puccini et tous
bien
ces
sûr.
Gens-là. Gomez, tout ça, il connaît tout le monde. Et en réalité, quand on écoute son Payas, ses Cavalleries, Rusticane, tout le répertoire vériste, même Chénier, etc., il n'y a jamais d'accent vériste.
Mmh.
Il le chante d'une façon belcantiste. Et c'est ça qui est formidable.
L'accent vériste, ce serait ce qu'on pourrait appeler le mauvais goût, quoi.
C'est
le trop.
Le mauvais goût, ou disons le côté théâtral qui
ouais,
est venu
ouais,
après,
ouais.
Bien après lui.
Ouais.
Voilà, c'est comme quoi, donc la base de tout, c'est quand même le bel canto.
Voilà, il faut dire que ce qui est fascinant, puisqu'on peut écouter tout ça, c'est qu'il a énormément enregistré en réalité. Hein.
Presque 300 disques.
300
Donc
disques, voilà.
C'est quand même assez impressionnant de ce qu'on a gardé. À mon
ouais.
avis, il y a des choses qu'on a même jetées.
Qu'on a perdu.
Qu'on a perdu ou il n'était pas satisfait. Parce que vous savez, comme il enregistrait, il venait, donc il fallait qu'il soit en forme, hein, donc il faisait ça tranquillement. Il savait qu'il avait deux ou trois morceaux à enregistrer. Il se préparait, il enregistrait plusieurs fois, il écoutait, voilà. Et puis une fois qu'il était satisfait, parce que quand on écoutait aussitôt, c'était abîmé, puisque
ouais,
la cire, on ne pouvait pas la reproduire.
Ouais, ouais.
Donc il écoutait. À partir du moment où il se sentait prêt et jugeait que c'était le moment, on commençait l'enregistrement et on gardait les plaques, quoi.
Voilà. Et alors avec parfois des condensés
oui,
de
oui.
grands airs, puisqu'on pouvait pas aller au-delà de 3 minutes.
Oui, bien sûr.
Au
départ, c'était même plus court. Je crois que c'était 2 minutes 50. On pouvait pas dépasser 2 minutes 50. Et ensuite, on est arrivé jusqu'à 4-5 minutes
voilà.
maximum. Donc souvent, des airs qui étaient trop longs, on les ajustait. Ou alors, on prenait des tempi hyper rapides. Comme dans son air de la Meule de Sanson, ça va à une vitesse. Et on se dit, mais pourquoi? Mais en fait, c'était pour des raisons. Voilà, des causes
voilà.
du disque.
Et tout ça, vous avez voulu d'une certaine façon vous en inspirer. Pour votre Caruso,
oui,
auquel on va revenir dans un instant, Roberto Alagna, mais j'en profite aussi parce que c'était pas très longtemps, vous avez publié l'an dernier, ou il y a quelques mois.
Oui, oui, il m'a fallu 2 étés pour l'écrire.
un dictionnaire intime avec
voilà.
notre ami Alain Duhaut.
Voilà, c'était son idée, l'idée voilà. d'Alain, et du coup, je suis parti sur le truc, et vraiment, je me suis impliqué à 100% dans l'écriture.
C'est très personnel,
voilà,
vous
c'est
parlez
très personnel.
Vraiment de vous,
oui, oui.
et on découvre un Alagna. On dirait qu'il est peut-être pas toujours conforme à l'image médiatique qu'on peut avoir.
C'est
quelqu'un
vrai.
Qui aime être assez retiré du monde, qui
oui,
aime
oui,
le
oui,
calme,
oui, j'aime,
qui
j'aime ça, oui.
déteste...
Puis on voit mes goûts aussi en même temps.
Voilà.
Voilà, pour la poésie, pour raconter des choses. On sent la sensibilité de l'enfant. Je suis aussi un observateur. On voit tout ça un petit peu.
Voilà, et vous racontez votre vie, mais à travers des sujets qui vous sont chers
voilà.
dans ce livre-là. Et vous revenez notamment à la lettre A, à un rôle qui a beaucoup compté pour vous. On parlait de vos débuts de chanteur au cabaret, mais vos débuts de chanteur à l'opéra, ils ont été extrêmement liés au rôle d'Alfredo
oui, oui, oui.
De la Traviata.
Oui, pendant 2 ans, j'ai chanté énormément d'Alfredo.
Ouais.
Voilà, donc j'ai une...
Et puis c'était une tendresse.
J'ai une tendresse parce que c'est aussi l'époque de ma première épouse, la pauvre Florence, qui est décédée très jeune.
Vous en parlez dans ce livre
voilà,
aussi.
Voilà,
oui.
et donc c'est aussi la naissance de ma fille. Et tout ça, c'est lié à Alfredo de la Traviata.
Grido dell'orrore, avrai sicuro vinto.
Le public de la Scala qui vous a applaudi, Roberto Alagna. Qu'est-ce que vous en pensez quand le public applaudit au milieu d'un opéra? Les puristes détestent ça.
Oui, mais bon, enfin, ils sont pas beaucoup.
Pas beaucoup.
Mais les compositeurs voulaient les applaudissements parce que grâce aux applaudissements, on comptait les applaudissements pour pouvoir savoir si l'œuvre serait rejouée. Hein.
Donc on a le droit.
Bah, vous savez, quand ils terminent avec bon, 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 c'est pour attirer l'applaudissement.
Ils les appellent, hein, c'est vrai. Par contre, dans votre dictionnaire intime, vous dites que il y a justement un article sur le mot applaudissement, que quand vous êtes sur scène, vous ne les entendez pas, les applaudissements.
Oui, oui. Alors ça, je ne sais pas si les autres artistes sont comme ça. Moi, je n'entends pas. J'ai toujours l'impression qu'il n'y a pas d'applaudissements.
Vous êtes dans la musique.
Oui, je suis encore dans la musique. Je suis encore dans une sorte d'adrénaline. Et j'ai du mal à entendre des applaudissements. C'est-à-dire que je les entends pour les autres. Et je ne les entends pas pour moi. Voilà. C'est assez curieux.
Alors ça, c'est donc à la Scala avec Riccardo Muti en 1991. Oui. Vous avez commencé très jeune là-bas.
Ben, écoutez, on a commencé à travailler ensemble avec Muti pour cette Traviata en 89. J'avais pas encore 25 ans. Et ensuite, j'ai démarré le premier spectacle, j'avais 25 ans. Et on l'a fait plusieurs années. Et ça, je crois que c'était déjà la troisième année. Mais c'est curieux d'écouter ça parce que vous savez, je lis souvent « Ah, il a plus la voix d'avant, c'était mieux quand il était jeune. » Et moi, quand je réécoute ça, je trouve que c'est mieux souvent maintenant
qu'à l'époque.
Ben oui.
Ouais, moi je pense que...
Vous voyez ce que je veux dire, mais bon, c'est un peu comme ça, on croit toujours que c'était mieux avant.
Caruso, il a à nouveau été présent d'une certaine façon dans votre formation de chanteur plus professionnel après les premières impressions d'enfance, hein, avec votre professeur.
Oui, il m'a toujours accompagné. Et le jour où j'ai rencontré Raphaël Ruiz, qui lui était un musicien de cabaret, je l'ai rencontré au cabaret, c'est-à-dire qu'on m'a envoyé chez lui. Et lui était passionné d'opéra, il avait même étudié avec Père Tillet, le grand Aureliano Père Tillet à Milan. Il était cubain. Et donc, le vendredi, on avait un rituel. On allait à l'église, ensemble. Il posait sa main sur les pieds de Jésus. Il y avait un énorme crucifix comme ça, avec un grand Jésus. Et il posait sa main, une main sur les pieds.
C'est vraiment très italien.
Voilà, mais c'était cubain. Et une main sur mon front. Et il pleurait. Moi, j'étais fasciné par ça, par sa capacité à pleurer. Il se souvenait de toute sa famille qu'il avait quittée. Il n'avait plus jamais revu sa mère, ni son père, ni ses frères et sœurs à Cuba. Et donc, j'ai cette image de lui. Et ensuite, le dimanche, on allait dans son appartement. Et là, il avait une collection énorme de disques. Et tous les dimanches, on écoutait Caruso.
Ah, voilà.
Mais c'était pas seulement écouter. On disséquait.
Ah oui.
Ah oui, c'était chirurgical. Tout.
La moindre note. Vous avez appris à chanter comme ça aussi.
Oui,
avec ce modèle.
Il m'a donné ce goût de l'écoute. Et grâce à lui, j'ai apprécié très vite les vieux enregistrements.
Ouais.
Et ça m'a servi. Parce que souvent, je vois que beaucoup de mes collègues ont du mal à écouter les enregistrements qui craquent un peu, tout ça.
Ça crée une intimité,
voilà.
Aussi,
mais moi,
une
j'adore
chaleur.
Ça. Et j'aime aussi, même dans la variété ou même dans le tango. Quand j'écoute Gardel, j'adore, parce qu'il y a un son comme ça.
Justement, ça, d'une certaine façon, c'est plus loin, mais ça nous rapproche.
Mais il y a quelque chose de surnaturel, je trouve, là-dedans. Et d'ailleurs, dans notre disque, quand on arrive à cette plage-là, moi, j'adore. Quand on revient sur le son.
On va l'écouter. Mais alors, votre langue naturelle de chanteur, si j'ose dire, c'est l'italien ou c'est le français?
Écoutez, moi, ma première langue, c'est le sicilien. Puisque à la maison, tout le monde était sicilien, on parlait sicilien. Moi, je suis arrivé à la maternelle, je parlais presque pas français. J'ai appris le français à la maternelle.
Ah
et
oui.
C'est là que je me suis rendu compte que c'est pas la Sicile ici. Voilà. Et ensuite, bien sûr,
donc
j'ai appris
votre langue naturelle,
c'est
plutôt
le sicilien.
L'italien.
L'italien, je l'ai appris en allant en vacances.
Ouais.
Parce que c'est une autre langue. Hein.
Ouais.
Le sicilien, c'est une langue complète. Donc, à la maison, on parlait tous en sicilien, mais avec ma grand-mère, tout le monde. D'ailleurs, ils n'ont jamais réussi à apprendre le français. Et voilà, donc on parlait en sicilien. Et ensuite, j'allais en Italie, et là, c'est là que j'ai appris l'italien en vacances, même si beaucoup de monde parlait sicilien. Et puis après, peu à peu, avec Raphaël Ruiz, j'ai appris l'espagnol, parce que je faisais les cabarets. Lui était cubain, il me parlait toujours en espagnol, et j'ai appris l'espagnol avec lui. Après, j'ai appris le roumain, après j'ai appris l'anglais avec les voyages et tout ça. Et
puis, voilà. Donc, mais comment expliquer que vous ayez ce... disons, ce naturel, ce sens du texte, cette compréhension parfaite dans la langue française qui est devenue si rare aujourd'hui à l'opéra, au point qu'on doit parfois mettre des sur-titres pour comprendre un chanteur français.
Ça, je crois que c'est un goût particulier. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Lorsque j'avais une dizaine d'années, nous avions des amis. Et ça va leur faire plaisir parce que j'ai reçu un message du fils il n'y a pas longtemps, qui habitait à Torcy. Et souvent, le dimanche, donc les parents travaillaient avec mon père. Donc c'était des maçons et donc c'était deux frères qui étaient mariés avec deux sœurs et voilà, donc ils avaient des enfants. Et ils étaient italiens, c'était des Calabrais je crois, je sais plus. Et ils étaient passionnés d'opéra. Et donc quand on allait chez eux, on voyait des opéras qui passaient à la télévision et nous on n'avait pas encore à l'époque des télévisions, on regardait pas ces trucs-là. Et j'écoutais donc les opéras, j'étais fasciné de voir ces gens-là qui étaient des gens simples écouter de l'opéra et je voyais des sortes de grosses bonnes femmes et je comprenais rien.
Et ben voilà.
Je ne comprenais pas.
Et ben voilà.
Et je me suis dit, mais pourquoi on ne comprend pas? Et on m'avait dit, parce qu'à l'opéra, on ne comprend pas. Et ça m'est resté. Ça m'est resté. Et quand un jour, on m'a dit que voilà, je pouvais faire de l'opéra, que moi j'adorais, je me suis dit, si je chante l'opéra, la première chose, il faut qu'on comprenne.
On comprendra, on pourra me suivre voilà. À la télé comme et une voilà. Vraie histoire.
Exactement. Parce que pour moi, qui adorais les histoires, qui adorais la littérature, qui adorais tout ça, je voulais comprendre le texte. Pour moi, c'était primordial. Je savais que les compositeurs étaient influencés par le texte. Ils étaient inspirés par le texte. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est du texte que naissait la musique.
Mais quel dommage que vous soyez si rare à penser comme ça.
Non, je pense que ça, de plus en plus maintenant.
Vous pensez que ça revient. Mais il y a peut-être eu une mode du chant pas compréhensible à une certaine
époque. Parce qu'on voulait faire du volume.
Couleur.
Mais quand on réécoute aujourd'hui les grands chanteurs et même les grands chanteurs d'aujourd'hui, on comprend. Moi, je sais qu'en tout cas, j'apporte cette diction comme ça, ce soin de la diction dans toutes les langues. C'est-à-dire quand je chante en italien, c'est pareil. En espagnol, j'essaie d'apporter vraiment une touche. Et d'ailleurs, je suis souvent félicité par les Espagnols, par les Sud-Américains, qui me disent tout le temps, oh là là, ton accent espagnol est parfait, ta diction. C'est pareil quand je chantais en roumain. On me disait souvent, disons, le roumain est parfait.
Et l'allemand et Wagner.
L'allemand aussi, je vais le travailler. C'est prévu, on va faire le refaire. Donc là, il y a eu un rendez-vous raté pour d'autres raisons. Mais donc c'est prévu l'année prochaine à Berlin. Lohengrin, toujours. Voilà. J'ai plusieurs productions qui sont prévues.
Voilà. Alors là, on va écouter justement un Français qui était un peu wagnérien, mais j'adore cet enregistrement. C'est Édouard Lalot. Vous avez en plus contribué à redécouvrir. Plusieurs de ses œuvres, parce que vous avez participé à un enregistrement de Fiesque, c'était je crois le premier enregistrement.
Qui n'a jamais été orchestré.
Oui.
Et donc on a été obligé de faire une orchestration sur les documents qu'avait laissé Lalot.
Voilà.
Ça c'est très intéressant.
Et même le Roi 10, malheureusement on ne le donne jamais, alors c'est pour ça que je suis content qu'on l'écoute
très bel ouvrage.
Avec vous.
Merci.
Fléchir ses jalouses gardiennes. Ah, laissez-moi compter mes peines et mon émoi. Près de ta porte fermée, je veux encore Et l'heure bientôt viendra. ou la main qui me repousse vers la mienne se tendra. Ne sois pas
Le roi 10 d'Edouard Lalo,
charmant.
Bertrand de Billy qui dirige l'orchestre de Covent Garden, Roberto Alagna.
Un très beau disque, c'est le disque d'air français, il est magnifique.
Voilà, parce que vous avez vraiment beaucoup défendu ce répertoire-là, et avec toujours une curiosité, une envie de faire des choses qu'on ne fait pas et que vous n'avez pas faites. C'est quelque chose qu'on retrouve souvent chez vous, Roberto Alagna. Vous avez horreur de la routine, vous aimez bien vous renouveler.
Et je n'aime pas les doublons non plus. C'est-à-dire que j'essaie toujours, j'ai enregistré beaucoup de choses, et c'est très difficile retrouver le moyen d'enregistrer encore sans faire un double.
Même dans le disque Caruso, d'ailleurs, vous avez fait attention à pas reprendre des airs que vous aviez déjà enregistrés par ailleurs.
Ou alors je les ai repris en italien. J'essaie d'éviter ça parce que je me dis que c'est dommage pour les gens. Il faut toujours que ça soit nouveau, quoi. Il faut toujours une surprise.
Voilà, mais il y a cette envie.
Et vous voyez, c'est toujours, on étudie tout le temps. Là j'écoute cet air du Roi 10 que j'avais pas écouté depuis longtemps. Une très belle version. Mais aujourd'hui, je le ferai encore plus simplement.
Oui, c'est très pur.
Et là, il y a des moments, je me dis, tiens, là, j'avais pas besoin d'en mettre encore. Je pouvais faire encore plus simple.
C'est l'effet de la maturité, on va vers la simplicité.
On va vers la simplicité, qui est la chose la plus difficile à faire. Ouais. Vous voyez, tout à l'heure, quand on passait Santa Lucia, on se dit, mais pourquoi ça marche? Parce que c'est simple. Ouais, mais c'est dur de faire simple.
Voilà, en tout cas, je pensais aussi, en écoutant ce grand tube du répertoire lyrique français d'autrefois, et j'avais envie de vous demander, Roberto Alagna, puisque vous parlez toujours avec enthousiasme aujourd'hui de Caruso, de Mariano, de Lanza, vous vous intéressez aux grands ténors populaires français, par exemple, comme Georges Thill?
Bien sûr, par exemple, quand je chante ça, c'est plus Caruso que j'ai en tête, c'est Georges Thill, les Dark Horse, c'est
Luccioni,
Jobin, tous ces gens-là. Bien sûr, tous les grands
vous
français.
Vous les connaissez, vous les aimez, vous les écoutez.
Moi, je connais tout le monde. Vous savez, je suis un fou d'opéra.
C'est vrai.
Et je connais même des gens que plus personne ne connaît. Oui, c'est ma passion. C'est ma passion. Si j'ai une passion, c'est bien celle-là.
Donc, on pourrait imaginer qu'un jour, vous fassiez un disque hommage à Georges Thill.
J'y ai pensé depuis longtemps, mais vous savez, moi, je fais toujours des hommages sur des gens qui m'ont façonné.
Oui.
Voilà. Et c'est vrai que Georges Thill aussi, dans le répertoire français, quand on réécoute des enregistrements, par exemple, l'attaque du moulin.
Oui.
Là, je vous assure que moi, quand je l'écoute, je vois l'influence de Georges Thill dans mon chant. Je l'entends.
Voilà.
Vous voyez? Donc, je m'imprègne toujours de tous ces gens-là. Et d'ailleurs, je dis toujours que c'est eux les grands professeurs.
Ouais.
Quand on veut des fois aller voir un professeur, un tel à tel, je dis à tout le monde, mais allez écouter, aujourd'hui on a YouTube, allez écouter tout le monde.
C'est le contraire de ces artistes qui vous disent, oh non, faut pas écouter parce que ça risquerait de m'influencer.
Ça, je trouve que c'est ridicule. Ça, c'est comme si un écrivain vous disait, je ne lis pas les livres des autres.
Ça risquerait de m'influencer, oui, c'est un peu curieux. En tout cas, vous êtes un des rares chanteurs à pouvoir parler de l'attaque du moulin d'Alfred Bruno. Ça fait plaisir.
Sur un livret de Zola, quand même,
Sur un livret d'Émile Zola, absolument.
Donc, c'est pas rien.
En tout cas, vos deux chéris, on va dire, mis à part Caruso, c'est quand même peut-être Lanza et Mariano, parce que ce sont des personnages de votre enfance.
Parce qu'il y a une affection. Mais moi, par exemple, je suis fou. Pour moi, c'est le plus grand phénomène de tous. C'est-à-dire Caruso, c'est un phénomène parce que c'est le plus grand ténor de tous les temps. C'est lui qui crée les choses. Ouais. C'est lui qui invente. Ouais. Mais après, il y a Gilli. Gilli, c'est un monstre.
Ah oui.
Parce que c'est l'héritier direct de Caruso. Il chante à la Caruso. Et en plus, il rajoute ce truc phénoménal qu'il a de cette morbidezza, de ce son, de ce falsetto tone, et là, cette façon de chanter que plus personne n'a après lui. C'est extraordinaire. Gilli, c'est le monstre parfait. D'ailleurs, vous savez, il y a des, quand vous lisez par exemple les livres du grand ténor Lauri Volpi, il raconte une anecdote. Lorsqu'il était jeune, il participait à une tournée en Amérique du Sud. Il partait en bateau. Et alors lui, c'était le ténor léger, c'était le ténor de grâce, donc il avait les rôles pour son âge et pour les... Le ténor dramatique, c'était Miguel Fleta, le grand espagnol. Et il y avait Gilles qui chantait tout. Et alors il expliquait que lui, il était tout le temps en train d'étudier les rôles, etc. Que Fleta était toujours avec une écharpe. Il se cachait, il parlait pas, il se reposait pour toute la traversée. Et Gilles, il était sur le pont avec tous les gens en train de chanter du matin au soir. Voilà. Donc j'adore ce personnage.
Voilà, parce que le ténor populaire, c'est votre modèle, en fait, c'est votre rêve, nature, c'est votre vie.
C'est pas ça, c'est que vous savez, vous avez des chanteurs qui deviennent chanteurs. Ouais. Et puis il y a celui qui est chanteur, qui est né chanteur. Voilà. Il est façonné par la nature, il est programmé. Et Gilly, c'est ça.
Alors chez Caruso aussi, d'ailleurs, dans votre livre de souvenirs familiaux, il y a quelques anecdotes comme quand il chante sur le toit d'une voiture à New York.
Ça me l'avait raconté. En fait, c'était une calèche, hein, c'était pas une voiture. Je sais que dans le grand Caruso, dans le film, ça devient une voiture. Mais mon arrière-grand-mère m'a raconté. Il est monté sur le toit d'une calèche.
Parce que les gens, il
est sorti et on lui a dit « Ah mec, commendatore, nous on n'a pas l'argent pour aller vous écouter, vous êtes l'honneur de l'Italie. » Et lui a dit, ah bon, vous n'avez pas pu m'écouter. Ah, attendez, il est monté sur le toit et il a chanté Mattinata.
Voilà.
Vous avez pas vu le.
Que vous reprenez dans le disque, dans le style de Caruso.
Et ça, c'est accompagné par Leon Cavallo lui-même, qui lui a dédié cette chanson. C'est fabuleux. Et c'est le premier disque qu'il a vendu à 1 million d'exemplaires, Mattinata.
Ah, on atteignait déjà des chiffres pareils.
Bah c'est lui.
1 million.
Il est le premier.
Alors, la gloire de Caruso, on peut la mesurer de tout un tas de façons, avec le nombre de disques, mais aussi avec la façon dont il a inspiré le répertoire populaire jusque dans la chanson française. Écoutons par exemple Monsieur Charles Trenet.
À Venise, ville exquise, j'arrivais pour le carnaval. À l'auberge de la berge, je laissais dormir mon cheval. Et fantasque comme un masque, je courus droit au corso, en chantant dans la bourrasque ce refrain de Caruso. Quand j'étais jeune en dette, on dentelle en bonnet pétard, je passais pour voir ma belle à travers cheminées et placards. Dans la rue, la cohue, une belle signorina me fait signe qu'elle est digne d'entrer dans la danse avec moi. Je l'emporte à demi-morte, elle tombe dans mes bras. Mais sa mère, en colère, nous menace et crie là-bas. Ramenez-moi donc ma fille, cavalier, chevalier du guet. Je suis vieille, sans famille, je suis vieille, je suis fatiguée. La bonne vieille, tout en larmes, va se plaindre au carabinier. Elle explique à des gendarmes que sa fille partit à pied. Mais hélas, ce sont des masques en gendarmes déguisés. Sur le char de la tarasque, ils ne pensent qu'à s'amuser. Ils l'entraînent dans leur ronde, lui rabattent les jupes sur le nez. Ils lui disent qu'elle n'est pas blonde et font mine de l'assassiner. Une danse, ça commence, on ne sait pas non quand c'est fini. Une telle tarentelle peut durer la mi de la nuit. Surtout quand une poursuite se transforme en farandole et qu'il faut quitter de suite le corso pour la gondole. Le grand canal en fête nous incite à nous espolir. À présent, baissons la tête, attention, c'est le pont du soupir. La nuit passe, on s'embrasse, on est seul sur un banc de parc. Aux merveilles, sans ta vieille, je suis plus heureux que Saint-Marc. Mais que dis-je, quel prodige, nous voilà vite cernés. Et des doges nous délogent en criant « Venez, venez, le bonheur est de tout âge, mes amis, nous vous invitons. Venez voir le beau mariage d'une vieille et d'un pierrot fripon. » Prends ma fille, elle est gentille, dit la vieille, regarde-moi. Je suis folle, je convole, oui, j'épouse un masque de joie. Mais le ciel s'est fait tout rose, je me sens décontenancé. Je ne voulais pas tant de choses, juste un petit peu m'amuser. J'embrasse la fille en larmes, elle me dit je m'appelle Sido. Je serre la main des gendarmes, bien le bonjour, je m'en vais au dodo. De Venise, ville exquise, j'ai gardé le doux souvenir d'une belle ribambelle, d'Arles XV et de grand vizir, d'un baiser de tourterelle dans la folie du corso, et aussi de la tarentelle que chantait le grand Caruso. Énorme et fantastique dans les noces et les banquets, au dessert apoplectique et les pieds trempant dans les baquets. Quand j'étais jeune en dette, en dentelle, en bonnet pétard, je passais pour voir ma belle à travers cheminée et placard.
1966, Charles Trenet.
Quel génie encore,
la
celui-là.
La tarentelle de Caruso. Voilà,
là, c'est cette chanson. On comprend la popularité du chanteur, puisque même là, on l'utilise, et même un génie comme Charles Trenet. Vous savez, Charles Trenet, j'ai aussi une affection pour lui. Parce qu'à chaque fois que je rencontrais Charles Aznavour, on a passé des moments sublimes ensemble. Il me parlait toujours de Charles Trenet. Il avait une admiration sans borne pour Charles Trenet. Et c'est vrai que c'est un génie. D'ailleurs, il a racheté toutes les éditions de tout le catalogue Aznavour. Ouais. Et vraiment, quand on écoute Trenet, c'est extraordinaire.
Oui, c'est vrai. Et je sais que vous l'aimez. Vous aimez Aznavour, vous aimez Léo Ferré.
Moi,
aussi,
j'aime beaucoup.
Avec le temps, vous le citez comme un chef-d'œuvre absolu.
Tout à fait. J'aime beaucoup de monde. D'ailleurs, je suis très bon public, moi.
Voilà. Mais ça fait quelques années, donc, après finalement avoir renoncé à être chanteur de variété pour devenir le grand artiste lyrique que vous êtes retourné vous-même d'une certaine façon vers le répertoire populaire, vers la chanson. Et est-ce que je peux dire que c'est quand même aussi lié à votre association amicale et de longue date avec Yvan Cassard?
Oui, on s'est rencontrés pour le projet de...
Yvan Cassard.
Oui, Yvan Cassard, aujourd'hui, c'est comme mon frère, Yvan Cassard, il fait partie de la famille.
Ouais.
On s'est rencontrés pour le projet de Mariano.
Voilà.
Voilà. Au départ, donc, il me connaissait pas, il me connaissait juste de réputation. Et quand on a eu ce projet, donc, ensemble, à la maison de disques nous a unis, il était parti dans un truc très classique avec grand orchestre et on a fait le rendez-vous. Et je lui ai dit, non, Yvan, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux qu'au contraire, qu'on mette des instruments comme ci, même si tu veux mettre une guitare électrique, mais que ça soit autre chose.
Que ça garde une couleur de chanson, presque.
Qu'on soit. Mariano, c'était quelque chose de particulier. Il avait inventé un style. Et là, ce que je voulais surtout, chez Mariano, c'est pas comme Caruso. Mariano était devenu, pour le profane, une sorte de cliché ringard et kitsch.
Voilà.
Et moi, je voulais lui rendre à nouveau ses lettres de noblesse. Voilà. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et avec Cassa, on s'est tellement bien entendu, on a tellement travaillé en osmose, qu'on a continué. Et maintenant, c'est notre septième disque déjà.
Septième disque. Et c'est que même pour le répertoire classique, vous aimez bien travailler avec lui.
Oui, parce que c'était un grand musicien. C'était un grand musicien, Yvan. Et aujourd'hui, c'est presque le prolongement de ma pensée. Dès que je lui parle de quelque chose, il a compris. Et par exemple, vous savez la chanson qui ouvre ce disque de Caruso.
Oui.
J'avais du mal à la mettre dans le disque parce que ça ne s'intégrait pas si facilement que ça. Mmh. Caruso n'a pas chanté ça, c'est un air complètement pop.
Alors, faut préciser, c'est une chanson en fait.
C'est une chanson.
Un Italien qui est mort assez jeune d'ailleurs, qui s'appelle Lucio Dalla.
Oui. Lucio Dalla qui est mort il n'y a pas très longtemps. C'était quelqu'un que j'avais rencontré à la Scala à l'époque. Et voilà. Et donc, il s'est retrouvé dans la chambre d'hôtel, à l'hôtel Vesuvio à Naples, dans la chambre qu'avait occupé Caruso avant de mourir.
Oui.
Et là, donc, il ouvre les fenêtres, il voit le Vésuve, la mer, il voit le piano, les photos. Et il est ému par ce truc. Il apprend que Caruso a vécu ses derniers jours là, dans cet hôtel. Et il est inspiré. Et il écrit cette chanson dans un coin de table, comme ça, en un quart d'heure. Et en même temps, dans la chanson, il est inspiré par une autre mélodie napolitaine qui s'appelle « Dici d'Ancillo Vouille » qui fait « a voglio bene assai, dici d'Ancillo Vouille ». Il prend ça et avec ça, il fait le fameux « Te voglio bene assai, tararadirara ». Et moi, ce que je me suis dit, voilà, j'ai la clé pour pouvoir mettre cet air dans le disque Caruso. Je vais faire un mélange des deux. Donc j'utilise l'ouverture d'orchestre de la chanson et peu à peu je change les tonalités, je fais un mélange, je fais une construction et je crée cette chanson-là. Et Cassard, Yvan, me fait l'orchestration. Alors vous savez comment j'ai fait le puzzle ? Avec mon téléphone, avec mon iPhone, en sifflotant, j'ai fait tout le montage et je lui ai envoyé ça. Et Yvan a fait cette orchestration magnifique.
Magnifique, on pourrait peut-être l'écouter alors.
Ah oui, allez-y.
Allons-y.
E tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia. comincia il canto che voglio ben assai, ma tanto, tanto bene sai, è una catena ormai, pascioglio sangue rinde bene. Vide le luci in mezzo al mare, pensò alle notti là in America, ma eran solo le lampare e la bianca scia d'un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e credette di affogare. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai. Dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò.
Caruso, c'est le nom de ce titre, hein, donc qui ouvre votre nouveau disque, Roberto Alagna, avec, on a entendu l'Orchestre National d'Île-de-France.
Oui, et la très belle orchestration d'Yvan Cassard, qui a fait un travail extraordinaire. Mais bon, Yvan, il fait toujours un travail extraordinaire.
Voilà. Donc le disque est construit comme une remontée dans le temps.
Oui.
Hein, vous nous faites entendre divers moments du style de Caruso, en commençant par le style le plus récent, si j'ose dire, pour remonter
jusqu'à... La petite messe solennelle de Rossini.
Et on
arrive à l'accompagnement au piano, avec Yvan Cassard au piano, encore une fois.
Avec au passage des titres étonnants. Hein. Il y a par exemple, moi j'ai découvert le Néron de Rubinstein,
qui est
un air extraordinaire.
Oui, très très beau. Hein. Très très beau.
Voilà, et puis d'autres encore.
L'opéra est magnifique, vous savez qu'il n'a jamais été monté, parce qu'il y a tellement de personnages, ce Néron, et il a été composé en français.
Le compositeur brésilien aussi, Antonio Carlos Gomes, que je connaissais peu, il y a des airs très beaux.
Qui était un protégé de Verdi.
Voilà. Il y a cet air d'Emmanuel Nutile qui s'appelle Mamma Mia.
Qu'est-ce que vous appelez un air napolitain, vraiment emblématique, extraordinaire dans une mélodie napolitaine. Puis il y a plein de choses. Il y a aussi des curiosités. Par exemple, cet air de basse de Colline que Caruso avait chanté. Il avait remplacé un collègue à Fon, à une basse, et il avait chanté de dos. Et personne ne s'était aperçu de la supercherie. Et voilà, donc je l'ai enregistré aussi. Donc on m'entend dans une tessiture de
basse. Complètement différent de ce qu'on a l'habitude
d'entendre. Puisque c'est plus en ténor, mais c'est avec une voix de basse.
Voilà. Et alors, donc c'est un objet vraiment construit, fabriqué, on peut dire, que ce disque. C'est même pas tellement un disque qui peut donner lieu à des prolongements scéniques.
Si, puisque là je vais faire, bien sûr, en version concert, je vais faire la plupart des airs de ce disque.
Mais pas les titres avec piano ou avec Jean 78
tours. On pourrait le faire. Quand il y a 10 ans, j'avais fait déjà ce programme, j'avais fait un mélange avec des pianos aussi, avec plein d'artistes, on avait fait tout un mélange et on entendait aussi la voix de Caruso. Là, je vais certainement garder seulement les solos, puisque je pourrais pas inviter tout le monde, et donc je vais garder tous les solos et avec orchestre.
Et donc, mais ce sera pas plus difficile en scène de retrouver justement ce travail très précis que vous avez fait sur le style de Caruso.
Je ne pourrais pas faire ça parce que je vais vous dire quelque chose, c'est très fatigant de faire ça, puisque en vérité je dénature mon instrument. Vous voyez, c'est comme un imitateur. Donc, quand je vais le faire sur scène, je le ferai avec ma voix, avec ma façon de chanter. Parce que là, je suis obligé de prendre ses respirations. Des fois, il y a des endroits où moi, je respirerai avant ou après. Il y a des sons que je couvrirai là où lui les ouvre. Et inversement, il y a des portamento que je ne ferai pas. J'attaquerai différemment. Voilà, donc je vais
c'est
plutôt...
C'est en sens que le disque est vraiment une chose très particulière.
C'est très particulier. C'est vraiment un document que j'ai voulu laisser comme ça pour témoigner un petit peu de cette époque et puis voir un peu ce qui était Caruso. Et c'est là qu'on s'aperçoit de sa supériorité par rapport à tous les ténors, avant et après.
On vient d'entendre alors le premier titre du disque, on va aller au dernier titre du disque, puisqu'on aime bien les grattements tous les deux, aime bien que ça craque un peu. Et là, donc, vous avez vraiment fait comme un enregistrement d'époque, vous avez dû vous amuser à le faire.
Oui, j'adore faire ça, surtout que je l'avais déjà fait, puisque moi je l'ai fait même en acoustique, je vous l'ai raconté tout à l'heure. Donc j'adore ça, et là j'ai choisi une chanson napolitaine, parce que comme il est quand même napolitain, bon, c'était emblématique, et voilà, j'ai voulu « La montagne ».
Non, non, ça n'est pas un 78
on
tours de 1905 ou je ne sais quoi. C'est vraiment Roberto Alagna.
Ouais, ouais. Et vous savez ce qui était difficile à faire aussi dans ce disque, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus habitué à écouter comme ça. Ouais. Et nous avons fait donc dans une salle qui est la salle de répétition de l'orchestre hein, de
National
Ville de France. Il n'y a presque
oui.
pas d'acoustique, mais ça nous arrangeait. Alors, c'était plus dur pour chanter, ouais. mais ça nous arrangeait parce qu'on ne voulait pas mettre de réverb. Donc, en fait, on a une voix pure, très proche, donc qui n'est pas soutenue par l'orchestre, et très très proche, on peut voir tous les défauts, mais en même temps, c'est hyper naturel. Et sauf qu'aujourd'hui, à l'époque, on le faisait avec un cornet, donc ça masquait des choses. Vous voyez, ouais, là, ouais. quand on écoute ça, ça masque un peu, ça fait un son un petit peu surnaturel. Mais là, nous, aujourd'hui, on a une technologie, les micros sont très sensibles. Donc du coup, ça rajoute encore au défi, parce qu'on entend une voix sans réverb, sans, il y a rien qui flatte la voix. C'est de la voix pure.
Vous avez toujours autant de plaisir, Roberto Alagna, aujourd'hui, à monter sur une scène d'opéra, à jouer le répertoire, etc.
Oui.
Quand vous pouvez vous lancer dans des aventures aussi personnelles
oui,
que Caruso ou Mariano.
Vous savez, j'ai une chance incroyable. Ouais. J'ai pu vivre toute ma vie de ma passion.
Ouais.
C'est la passion que j'ai depuis l'enfance, depuis que je suis né. Le chant, l'opéra, la musique, pouvoir créer comme ça des choses. Et j'ai pu le faire pendant longtemps. Et donc, je suis ravi. Et quand je me retrouve sur scène, là, on vient de chanter Don Carlos.
Oui.
Vous imaginez que la
ce
dernière fois que j'ai chanté...
Ce sera diffusé bientôt par France Musique. Je redirai le jour tout
d'accord.
à l'heure.
La dernière fois que j'ai chanté Don Carlos à Paris, c'était dans la version française. Ma fille Ornella avait 5 ans.
Ouais.
Et je reviens maintenant... Donc 24 ans plus tard, et ma deuxième fille a 5 ans aussi. Et c'est toujours avec Lissner, c'est quand même incroyable.
Oui, que vous avez retrouvé aussi entre-temps à la
oui,
Scala.
Oui, qui est un ami de longue date.
Mais en même temps, je pense à la Scala, je pense à d'autres histoires. Le monde de l'opéra, c'est quelquefois un peu dur. Il y a facilement
oui,
de la polémique,
des
excitations médiatiques,
voilà,
le public peut être cruel même parfois.
Qui n'ont rien à voir avec la musique et avec le monde artistique.
Ouais.
Il y a des choses qu'on peut difficilement expliquer. Et même après ce qui était arrivé à la Scala,
oui.
on a toujours été amis avec Stéphane Lissner. Et voilà, donc on continue notre chemin ensemble et je suis toujours ravi de travailler avec lui.
Et puis alors, d'ailleurs, on voit bien dans votre dictionnaire intime, vous soulignez très, très concrètement certaines choses, parce que le public croit toujours que les choses, ce ne sont que des caprices d'artistes, mais que par exemple, une voix c'est fragile,
ah oui,
que les allergies,
sûr.
Par exemple, c'est un vrai problème.
Ah oui, catastrophique,
parfois pour vous,
catastrophique.
Et que c'est pas toujours si simple de monter
exemple,
sur scène tous les soirs.
C'est vrai,
hein.
Je lis des choses des fois qui sont assez aberrantes. Vous voyez, par exemple, il m'est arrivé là ces derniers temps, enfin ces derniers temps, c'est des années qui passent. Mais par exemple, ce qui m'est arrivé l'autre jour à la première de Don Carlo, où j'étais obligé de jeter l'éponge. Pourquoi ? Parce que je n'arrivais plus à avaler.
Voilà.
Vous voyez, je n'arrivais plus à avaler et je sais que j'ai une série de Don Carlo qui va durer, c'est quand même un ouvrage qui dure 4h30, il faut que je préserve l'instrument pour pouvoir
c'est
assurer
ça.
Toute la représentation. Donc même si j'avais pu le faire, je pouvais le faire, aller jusqu'au bout, mais j'ai quand même assuré pendant 2 heures de spectacle,
ouais.
je dis bon, ça dure encore 2h30, à partir de 2 heures de spectacle, les cordes vocales commencent à souffrir. Je me suis dit, ça sert à rien de mettre en péril les autres représentations, la doublure est là, on en profite, ça va lui faire aussi un cachet supplémentaire pour lui, il va être heureux de débuter là-dedans, donc je fais le truc. Après, je lis des choses. Mais qu'est-ce qui se passe ?
Oui.
C'est qu'on fait des répétitions. On est tous ensemble. Bon, tout le monde a été malade, tout le monde s'est refilé. Mais c'est pas ça, c'est qu'on fait la générale. Et les gens, comme moi, j'ai une vraie proximité avec les gens, ils viennent ensuite me voir et ils m'embrassent. Et on fait des selfies, etc. Et ils me refilent. Il y a toujours des malades, vous
ah
savez.
Oui,
et ils
ça.
Me refilent leur microbe. Et hop, j'arrive 3 jours plus tard à la première, malade moi aussi. Vous voyez, donc, mais c'est comme ça.
C'est
quand
pas simple. Hein.
Parce que quand vous entendez les gens dans la salle qui toussent, ils sont tous à moitié malades. Et eux, par contre, certains n'ont pas de pitié pour le pauvre artiste qui lui aussi est humain et qu'il est comme vous. Vous toussez, vous crachez, vous faites tout ce que vous voulez dans la salle. Ben nous aussi, ça nous arrive. Vous voyez
ah oui, la vie de chanteur, c'est pas simple. Tiens, d'ailleurs,
c'est pas simple.
Serge Reggiani le disait déjà.
Oui, exactement.
Je suis le roi du ciseau, de la barbiche en biseau. Je suis le barbier de Belleville. Des petits poils jusqu'aux cheveux, je fais vraiment ce que je veux. J'ai toujours été hanté par le désir de chanter Manon Carmen ou Corneville. Alors avouez que c'est râlant d'avoir la vocation sans le talent. Je n'ai pas de voix, j'essaie quelquefois. Mais ça ne vient pas, je ne suis pas doué pour l'opéra. les clients me comparent au fameux raseur Figaro. Je ne suis que le barbier de Belleville. Je peux vous passer un shampoing, mais vous faire un tour de shampoing. Je suis, je prends les paris, le meilleur de tout Paris, pour tous les goûts, dans tous les styles. Je fais un métier que j'adore, mais je voudrais chanter Toréador. Je n'ai pas de voix, j'essaye quelquefois, mais ça ne vient pas, je ne suis pas doué pour l'opéra. C'est comme ça, je ne suis ni Caruso ni Rossini, je suis le barbier de Belleville. Je ne serai jamais, hélas, le partenaire de la colosse. Alors de mon bistouri, je taille les favoris des bonnes gens de la grande ville, en rêvant que je suis à la Salle Garnier ou bien à la Scala. Je n'ai pas de voix, j'essaie quelquefois, mais ça ne vient pas, je ne suis pas doué pour la.
Voilà, c'est Serge Reggiani. Vous l'aimez cette chanson?
Oui, je l'ai même interprétée moi-même à la fin d'un concert. C'était à la salle Playel il y a quelques années. J'adore, c'est pour ça que je l'ai choisi, parce que c'est pour le clin d'œil à l'opéra et
évidemment,
à la voix.
Évidemment, Roberto Alagna, merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin pour la sortie du disque Caruso et aussi pour ce dictionnaire intime paru peu de temps avant, dans lequel on comprend que vous aussi, vous avez un sens de la famille qui est très important.
Bien sûr, hein,
vous savez d'où vous venez.
Exactement, j'en ai pas honte.
Jusqu'à vos arrière-grands-parents, et vous vous intéressez maintenant beaucoup aussi, pour reprendre la formule d'Hugo, même si ça vous vieillit un peu, à l'art d'être grand-père.
Exactement, je suis deux fois grand-père et je suis un heureux grand-père, avec voilà. Deux beaux petits garçons.
Dont là, à peu près l'âge de votre deuxième fille.
Il y en a un qui a quasiment l'âge de sa tante.
De sa tante, voilà, c'est ça.
Oui, je suis ravi, oui. Mais c'est vrai que
c'est pas angoissant tout d'un coup d'avoir deux générations derrière soi.
Oui, mais c'est beau de les voir grandir, de les voir évoluer, c'est magnifique, quoi.
Voilà. Et puis votre histoire personnelle et familiale, c'est aussi d'ailleurs une histoire qui a commencé à Clichy-sous-Bois, dans le 9-3, dont
exactement.
On parle beaucoup. Hein.
Oui, et d'ailleurs, je suis ravi parce que dans le 9-3, on va chanter Carmen au Stade
de
France.
Vous allez chanter dans quelques mois.
Voilà, donc c'est quand même assez incroyable de se dire, voilà, moi qui étais de Clichy-sous-Bois, j'entendais parler de ce stade qui allait être construit, un nouveau stade dans notre banlieue. Et puis là, maintenant, j'y chante. Voilà,
ce sera le 19 septembre 2020. Évidemment, ce sera sonorisé.
Là, bien sûr, parce que c'est impossible.
Ça marche pour vous, ce genre de formule?
Écoutez, c'est difficile pour les chanteurs d'opéra, parce qu'on n'a pas l'habitude, et puis on peut pas contrôler notre voix à 100%. Voilà, mais bon, on s'adapte et on le fait. Et, bon, on le fait souvent dans les concerts en plein air. Ça nous arrive souvent d'être amplifié. Ce qui est intéressant, c'est de chanter une œuvre opératique dans un lieu gigantesque comme celui-là.
Vous serez avec Béatrice Uriamonzone.
Avec Béatrice Uriamonzone et puis avec Alexandra aussi, mon épouse.
Voilà, et justement, puisqu'on va se quitter avec encore un extrait de ce Caruso 1873, c'est le titre du disque, je le précise, c'est parce que Caruso était né
en 1873.
Vous êtes né exactement 90 ans après.
Voilà, en 1963. Oui.
En 1963. et bien dans ce disque, on retrouve également quelques complices, dans le meilleur sens du terme, non seulement Yvan Cassar, mais aussi justement Alexandra, votre femme.
Oui, Alexandra qui est sur deux titres, donc il y a un duo, le fameux duo du Guarani avec de Gomes, donc du compositeur brésilien qui était le protégé de Verdi. Et puis aussi un trio avec deux Polonais.
Voilà.
Donc, puisque la basse aussi, Rafał Siwek, qui est une grande basse d'aujourd'hui, qui chante sur toutes les scènes du monde et qui m'a fait la gentillesse de m'accompagner avec Alexandra dans ce trio des Lombards.
Ce sera, je crois, d'ailleurs un très beau trio pour conclure notre entretien.
Très beau.
Et il a une importance aussi dans le répertoire Caruso, donc,
oui,
ce
tout
trio.
À fait, parce qu'on s'aperçoit des changements que fait Caruso. Là, il rejoint la soprano en chantant la même ligne qui n'est pas écrite par Verdi.
Voilà,
donc il y a ses libertés.
Vous l'avez fait, forcément.
Je suis obligé de le faire.
Bien sûr.
Et donc, je le fais à sa façon. Et il y a une façon d'attaquer les aigus qui est vraiment spécifique de cette époque, où on prend l'aigu tout petit, presque entre les deux yeux, et on élargit simplement les cavités sinusiennes pour lui donner de la force. Et donc, aujourd'hui, on ne fait plus ça. On chante directement avec la gorge ouverte et plus large. de l'aigu. Donc vous voyez, on s'aperçoit que la technique a évolué là aussi.
Voilà, bah écoutez, merci parce que c'est un disque qui m'a enchanté, Roberto Alagna.
C'est très gentil, je suis ravi.
Et on était tous très heureux d'être avec vous ce matin.
J'étais heureux aussi.
À bientôt.
Qual voluta trascorrere, sento di vena in vena, più non mi recco ai tavi. Discerno appena
Roberto Alagna, Alexandra Courzac, Rafal Sivek dans cet extrait de I Lombardi, opéra de jeunesse de Verdi. Cet extrait du nouveau disque donc de Roberto Alagna, Caruso 1873, qui vient de paraître chez Sony Classical en partenariat avec France Musique. France Musique où vous pourrez aussi retrouver Roberto Alagna dans Don Carlo, enregistré récemment à l'opéra. Ce sera le 14 décembre prochain à 20h.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et pour nous quitter, j'ai choisi un petit chef-d'œuvre de ce qu'on appelait l'École de Paris, une œuvre du compositeur franco-polonais Alexandre Transman. C'est la toccata de son concertino pour piano et orchestre de 1931.
Thank you.
J'adore cette musique, le concertino de Tansman par Christian Seibert au piano, Howard Griffiths et l'orchestre d'État de Brandebourgeois de Francfort, sous la direction donc d'Howard Griffiths, une œuvre de ce grand compositeur franco-polonais qu'on entend bien trop rarement dans le pays qu'il avait pourtant choisi. Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Duteurtre préparée par Annie Comier, avec aujourd'hui à la technique Alexandre Billard et Cindy Legrumelec, réalisation Christine Amado. Et la semaine prochaine, ce sera le grand cabaret de France Musique avec mon invité Patrick Sébastien. D'ici là, bon week-end à tous sur France Musique. Vous avez rendez-vous maintenant avec Sébastien Linares.
À réécouter sur francemusique.fr.